L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Jeudi 14 décembre 1503. Il est presque midi. Nous sommes en Provence, à Saint-Rémy-de-Provence, plus exactement au sud d'Avignon, au pied de ces alpilles qui accouchent de plaines fécondes en vergers, vignes et oliviers. Ce 14 décembre, dans une maison de l'actuelle rue Hoche, voit le jour un enfant qu'on baptisera sous le nom de Michel de Notre-Dame. Il naît sous le signe du Sagittaire. Personne ne peut se douter que ce nouveau-né, que ce premier enfant d'une fratrie nombreuse, deviendra par la suite célèbre dans le royaume de France, puis en Europe savante, et qu'aujourd'hui son nom résonne encore comme étant l'image, le modèle du devin, du faiseur de prophéties, à la fois entouré de mystères et doué d'intuition. Personne ne se doute que dans cette maison est né Nostradamus. Nous sommes donc le 14 décembre 1503, il est presque midi, l'heure H de mon récit. Michel de Notre-Dame naît dans une famille aisée, originaire d'Avignon et de Saint-Rémy. Son père, Jaume, c'est-à-dire Jacques, marchand à Avignon, a épousé une petite fille de médecin richement dotée, héritière de maisons, prés, vignes et vergers. En se fixant à Saint-Rémy, Jaume devient notaire, car sa volonté est de s'élever dans l'échelle sociale. En ce début de XVIe siècle, Michel se contente de grandir comme les autres enfants du Midi, et rien ne laisse prévoir ce que lui réserve le destin. Bien vite, il explore sa rue, sa ville, et comprend que sa famille n'est pas comme celle de tout le monde. Il habite tout près de l'église Saint-Martin, avec son clocher du XIVe siècle. Sa rue est juste derrière cette collégiale. C'est la rue de la Juiverie, quartier réservé aux Juifs, donc aussi à sa famille. Car cette famille, originaire d'Avignon, est une famille de néophytes, c'est-à-dire de Juifs convertis. Certes, le mot aujourd'hui a perdu son sens initial, mais c'est ainsi qu'on désignait à l'époque toute personne, juive le plus souvent, qui s'était convertie au christianisme et avait été récemment baptisée. Depuis que le comté de Provence avait été rattaché au royaume de France, le roi leur a imposé le choix, soit la conversion, soit l'exil. Et de toute manière, l'obligation de porter un signe distinctif, la rouelle ou la capuche pour les femmes, de vivre dans un quartier imposé appelé carrière, et de ne pratiquer que certains métiers liés à l'argent et considérés dès lors comme impurs. L'arrière-grand-père du petit Michel s'était rapidement converti, plus par prudence que par conviction, bien sûr. Quant à son grand-père, il avait changé de nom. C'est ainsi que ses descendants s'appelleront désormais de Notre-Dame. Le petit Michel joue-t-il vraiment avec les gamins de son âge? Pas tout à fait, car une défiance demeure. Cette famille n'est pas comme les vrais Provençaux. La cohabitation n'est pas toujours harmonieuse. Un reste d'antisémitisme semble avoir subsisté. Déjà au XIVe siècle, des chrétiens de Saint-Rémy s'étaient plaints auprès du juge qu'ils ne pouvaient trouver sur le marché aux viandes que des bêtes sacrifiées selon le rituel juif et de ce fait inconvenantes, malpropres et sans goût. Le juge avait dû faire construire un étal spécialement réservé aux Israélites et interdire l'abattage rituel dans les boucheries chrétiennes. Mais que perçoit l'enfant de ces tensions d'adultes? Quels sont ses premiers paysages, ses premiers regards d'enfant avide et curieux? Ce qui est sûr, c'est que cette Provence restera son trésor à jamais ancré en lui, son arrimage intime. Même quand plus tard, il s'en éloignera quelque peu, il reviendra s'y blottir, voire s'y réfugier. Pour l'heure, il a tant de merveilles à découvrir dans la campagne qui grésille sous le chant des cigales. Avec un de ses proches, il aime gravir la route poussiéreuse qui mène au Mont Gaussier, sommet des Alpilles qui domine sa cité natale. Le soir venu, émerveillé, la bouche bée, il contemple le firmament, se laisse guider par les observations savantes de son parent, comme si déjà il visitait ses astres, ses planètes, ses mystères. Une de ses fascinations prend racine ici. Mais là-haut, dans les collines de Saint-Rémy, il y a aussi, entre les pins qui cuisent au soleil, une autre merveille. Là aussi, on l'emmène et on le guide. Il y a ces ruines oubliées de Glanum, agglomération gallo-grecque puis gallo-romaine, d'avant l'ère chrétienne. Le site s'est effacé, petit à petit. Mais ce qui attire le petit garçon, ce sont deux témoignages de la romanité qui, eux, se dressent devant ses yeux éblouis. Un arc et un mausolée. Ils attirent déjà les savants de son temps, on les appelle déjà les antiques. Ils intriguent érudits et voyageurs. Ils sont même à la mode. Et, on s'en doute, pour le petit Michel, ils s'inscrivent définitivement en lui comme l'image d'un passé qu'il poursuivra toute sa vie. Sous cet arc élégant mais impressionnant qui marquait l'entrée ouest de la cité antique de Glanum, il prend plaisir à passer et à repasser. L'enfant y détaille les sculptures de prisonniers gaulois. Le mausolée de 17 mètres excite encore plus son imagination avec ses bas-reliefs qui racontent la carrière des défunts dans l'armée romaine. Et il déchiffre ces combats cruels gravés dans la pierre. Il entend presque le choc des armures et des glaives. On ne connaît pas l'interprétation des savants de l'époque, mais on connaît l'exaltation de Nostradamus et surtout son décryptage personnel. Car il va revenir ici de nombreuses fois au cours de sa vie, attiré comme partout par les vestiges et les inscriptions séculaires. Il évoquera ces antiques de Saint-Rémy dans ses célèbres prophéties. L'enfant devenu adulte continuera à se passionner pour ces antiquités. Toute sa vie, ces témoignages d'un empire puissant resteront à ses yeux un domaine à décoder et à réinventer. Ne l'oublions pas, Nostradamus sera un homme de son temps, un citoyen de la Renaissance, intéressé par ce qu'il nommera quelques grands et occultes secrets. Mais il restera aussi le petit garçon de sa ville natale qui gardera une vivante nostalgie de son Saint-Rémy et des deux monuments qui ont imprégné son imaginaire. Après une enfance riche en perceptions et en découvertes antiques et astronomiques, les rêves du petit Michel sont soudain bousculés par les projets de son père Jaume. Ce dernier considère que le savoir participe au statut social. Jaume veille à ce projet. Ses autres fils sauront se placer dans la société. Jean sera notaire et procureur au Parlement. Bertrand, écuyer du comte de Tende et propriétaire du château de Roussan qui existe toujours. Antoine sera procureur de Saint-Rémy. Louis sera clerc. Michel, l'aîné, s'est décidé, fera ses études à Avignon, tout proche. Le rayonnement culturel de la cité demeure considérable à la Renaissance, malgré le départ des papes, plus d'un siècle plus tôt. Après avoir appris à lire et à écrire, le voici donc inscrit à la faculté des arts. L'université d'Avignon est une des plus anciennes de France. Imaginez que déjà au XIIIe siècle, on y a développé un embryon d'enseignement médical. L'université, voulue par les papes en 1303, avait pour but de s'opposer à la Sorbonne de Paris, trop docile au roi de France. Un cursus de 6 années enseigne les arts libéraux, grammaire, rhétorique, dialectique, musique, arithmétique, géométrie et astronomie. Le jeune étudiant doit exceller dans ces disciplines car ses condisciples l'appellent déjà le jeune astrologue. Il ne cesse en effet de leur signaler, de leur expliquer le phénomène des étoiles filantes, météores, astres et brouillards. Tout l'intéresse. Durant ses études, de 14 à 20 ans, il loge chez son oncle et sa tante qui sont teinturiers en Avignon. Il les aide même à préparer les produits colorants. Le voici donc dans le quartier animé et pittoresque des teinturiers. Ce n'est toutefois pas sa seule activité. La vie estudiantine se concentre en ville autour de l'église Saint-Didier. Mais loin du contrôle du père Jaume, cette vie libre et joyeuse semble apporter au jeune Michel d'agréables moments. Pire, il fut en sa jeunesse enclin au vice, racontera un de ses frères. Dès lors, Eh bien, le père exige que son fiston suive des cours de philosophie afin de lui indiquer la bonne voie et de juguler ses débordements. En ville, à l'époque, la vie débridée des étudiants est bien connue. Le pape Léon X se plaignait déjà en 1514 des débauches des étudiants qui s'esbaudissaient au lieu d'assister aux études. Une bulle de 1531 révoquera même les privilèges des docteurs et des escoliers pour raison de mauvaise vie. Quoi qu'il en soit, le jeune homme trouve dans la communauté étudiante maintes occasions de s'amuser, de chahuter et de jeter sa gourme. Mais le premier flou de son existence apparaît soudain. A-t-il terminé ses études en 1521 ou, comme il est plus vraisemblable, son cursus a-t-il été interrompu par l'épidémie de peste qui ravage Avignon en 1520? C'est un premier mystère et ce ne sera pas le dernier. Sa vie, toute sa vie, nous allons le découvrir, ressemble à une immense nuit occulte où chaque étoile brille comme une lumière inconnue.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Michel de Nostredame, ou comment un petit garçon, apparemment comme les autres, devient l'un des plus grands prophètes dont la renommée perdure encore aujourd'hui dans le monde entier, Nostradamus. À ce stade de notre récit, Michel est un jeune homme déjà passionné par l'astrologie, un étudiant qui chahute les cours et qui ne laisse encore en rien présager l'homme qu'il deviendra. Après Avignon, que fait-il? Il commence un temps qu'il nomme « ses jeunes ans ». Il va le consacrer à l'expérimentation. Petit problème. Jaume, son père, le couche sur son testament, mais ne lui lègue que 5 florins en guise d'héritage, pour la bonne raison qu'il lui a déjà octroyé 500 pièces d'or afin qu'il accède à une situation élevée. Qu'en a-t-il fait? Ce viatique a-t-il payé ses futurs voyages? Car le jeune homme ne va cesser de voyager. Où? Eh bien, des doutes subsistent. Entre 1521 et 1529, ses itinéraires sont incertains. Cet inconnu pourrait dissimuler une vie instable, voire confuse. Il aurait parcouru plusieurs terres et pays pour parfaire ses connaissances des plantes et autres simples. Il aurait réalisé des expérimentations pharmaceutiques. Il s'intéresse à la vie biologique, aux diverses préparations de confitures et aux monuments de la romanité. Il raconte qu'il étudie la culture antique et se plonge dans les auteurs grecs et latins. Ceci est bien de son temps. Mais où est-il allé? Sud de la France? Italie? Languedoc? La Rochelle? Selon ses dires, il aurait exercé la médecine à Narbonne, Toulouse, Bordeaux. Armé de quelles connaissances? Après ses 8 ans d'errance secrète, la seule date incontestable est celle du 23 octobre 1529. Il a 26 ans. Il juge sa période d'expérimentation terminée et souhaite aborder le temps du savoir institutionnel. Voilà pourquoi nous le retrouvons à Montpellier. Dans une maison 6 en ville, on accueille les étudiants et on reçoit leur inscription à l'université. Il faut se rappeler que la faculté de médecine de cette ville attire les candidatures. Elle est une institution à la réputation européenne. Ses premiers statuts datent de 1220. Elle occupe une place de choix, située au carrefour de divers courants d'art et de savoir, judaïque, catalan, grec et arabisant. Des figures d'autorité y enseignent. Un courant vivace de médecins alchimistes l'anime. Il n'est donc pas étonnant qu'en cette année 1529, Nostradamus ait souhaité parfaire son acquis élémentaire afin d'obtenir son baccalauréat, ou mieux, son doctorat. Sa présence à Montpellier ce 23 octobre 1529 est bien attestée. Pour preuve, le registre des étudiants, numéro de matricule 943, conservé aux archives de la bibliothèque interuniversitaire. Et il est assez émouvant de l'ouvrir. De découvrir son inscription autographe, une écriture large, régulière, d'homme équilibré. Toutefois, un autre registre des mêmes archives prouve que Nostradamus a été radié de la faculté de médecine à une date non précisée, environ un an et demi après son inscription. Donc, il n'a jamais obtenu son diplôme de médecin. Mais alors, que s'est-il passé ? Un apothicaire de Montpellier a affirmé que Nostradamus avait été apothicaire, ce qui était incompatible avec une formation de médecin. Les médecins, à l'époque, défendent jalousement et orgueilleusement leur statut et leur caste. Ils discourent, enseignent, analysent, diagnostiquent, mais ne posent pas d'actes manuels. Pour eux, la profession d'apothicaire est un métier manuel. Le leur ne l'est pas. Nostradamus ayant été reconnu apothicaire, il ne peut donc devenir médecin. À ces raisons, ajoutons que l'homme savait aiguiser des jugements incisifs et mordants, surtout à l'égard des apothicaires qu'il disait ignorants, sales et avares. À l'inverse, lui se vantait de pratiquer la pharmaceutique, considérée à son époque comme une des cinq parties de la médecine. Toujours est-il que le voilà exclu de la faculté de Montpellier et que cette radiation est sans appel. Désormais, quand il va se présenter comme médecin, nous savons qu'il se vante et trahit la vérité. Cinq ans plus tard, vers 1534, nous le retrouvons dans la région d'Agen où il exerce la médecine. On n'a sûrement pas dû lui demander son diplôme. Sa vie est à nouveau tapissée de secrets. Il s'y marie, c'est certain, et a deux enfants. À nouveau, il s'absente. Le revoici sur les routes. Lesquels ? Eh bien, mystère. Peut-être est-ce à ce moment-là qu'il se rend en Italie pour trouver des recettes et des composants afin de préparer des pommades et des onguents. Quand il revient à Agen, sa femme et leurs deux enfants sont décédés, peut-être victimes de la peste. Ah, elle rôde, cette faucheuse. Il devra la combattre souvent. Il va la rencontrer trois fois dans sa vie. Mais il doit aussi combattre la suspicion religieuse que ce siècle ourdit déjà dans l'ombre. Inquiété pour ses convictions réformées, il est mis en cause en mars 1538. Il doit fuir. Où se réfugie-t-il ? Dans son pays de naissance et d'enfance. Là où il est rassuré. Après un passage à Marseille, le voici dans la belle ville d'Aix en 1546. Face à la peste qui va sévir durant 9 mois à partir du 30 mai. Les médecins ont fui devant le fléau. La municipalité recherche des volontaires. Est-ce son drame personnel, le décès des siens qui le pousse à s'engager ? Désespéré, il se lance dans le dévouement. Il a atteint la maturité. Il a 43 ans. Un document d'archives nous informe que la ville d'Aix le rétribue pour avoir pris soin des pestiférés. Et le voici qui parcourt les rues d'Aix, se sentant totalement démuni devant les convulsions des malheureuses victimes qu'il tente d'apaiser. Il nous en laisse un texte saisissant, vécu, un véritable reportage en direct, consigné dans l'un de ses ouvrages. Écoutez plutôt. Cette peste qui fut alors était tant maligne que c'était chose épouvantable. Plusieurs affirmaient que c'était punition divine. Toute la ville était tant affectée. La mort était tant subite, effrénément, que le père ne prenait compte de son enfant. Plusieurs ont abandonné leurs femmes et enfants quand ils connaissaient qu'ils étaient frappés par la peste. Plusieurs entachés par la peste, par frénésie, se sont jetés dans les puits. D'autres se sont précipités de leurs fenêtres, en bas, sur le pavé. Les femmes venaient avorter et au bout de 4 jours mouraient. L'enfant mourait subitement et lui trouvait-on taché tout le corps d'une couleur violette. J'ai vu une femme qui se cousait le linceul sur sa personne, commençant par les pieds. À cette époque, on n'est guère armé pour faire face à ce fléau récurrent. Ceux qu'on nomme les parfumeurs font brûler dans les lieux à désinfecter un mélange composé de graines de genièvre, de racines et d'écorces de bouleau, de poignées de cornes de bouc râpées, des feuilles de chêne et de myrrhe rouge. Munis d'un masque pointu, ceux qu'on appelle les corbeaux enlèvent les cadavres. Les humbles sont touchés en premier, mais les gens de la cour en sont aussi victimes. L'opinion populaire, tout comme les médecins les plus illustres, y voit un fléau lancé par Dieu pour punir une humanité pécheresse. On comprend que cette peste qui, partie du Midi, s'étend de plus en plus, laisse même les gens d'intelligence totalement désemparés. Le mal et la mort s'ajoutent au chaos du royaume et à une chrétienté déchirée. On comprend aussi que Michel de Notre-Dame s'engouffre dans une période de sa vie où l'angoisse est le quotidien des êtres. Après pas mal d'hésitations, de déplacements, de tentatives de réussite, de déconvenues, de combats contre l'adversité et contre la peste, l'itinérant semble rechercher un équilibre, une sorte de paix. Et c'est bien à sa Provence natale qu'il pense, plus précisément à Salon de Croix, aujourd'hui Salon de Provence. L'image, presque le cliché du prophète, tel qu'on se l'imagine toujours, se façonne définitivement à partir de son installation à Salon, lorsqu'il y prend demeure et qu'il s'y remarie en 1547. Cette fois, il va ressembler à cette image telle que les siècles suivants en garderont la mémoire. Chapeau noir, longue barbe grisonnante, regard fixe, tourné vers une intuition ou une chimère mystérieuse. C'est ainsi qu'il apparaît sur son portrait, peint sur cuivre, conservé à la bibliothèque Méjeanne d'Aix-en-Provence. Portrait figé pour l'éternité, qui deviendra un chromo pour illustrer tous les ouvrages qui lui seront consacrés par la suite. Nous le retrouvons le 11 novembre de cette année 1547, marié à Anne Ponsarde, une veuve salonnaise dont il aura 6 enfants. Ainsi donc, après maintes errements, Michel de Notre-Dame se pose dans une belle demeure et devient citoyen de Salon. Et c'est ici que débute l'ultime partie de sa vie, celle de l'ancrage, celle de la célébrité, celle aussi de la suspicion et même du rejet. Il modifie d'abord son patronyme en le traduisant en latin et en lui donnant un sens caché. Michel de Notre-Dame devient Nostradamus, ce qui, à ses yeux, doit être traduit par « nous donnons du nôtre ». Lui-même se présente comme pharmacopole itinérant, praticien du Sud et adepte d'idées réformées. Avouons-le, se présenter comme réformé n'est guère prudent, surtout à l'aube des guerres de religion qui vont ensanglanter la France.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Charles de Notre-Dame et ce moment où il change son patronyme et devient Nostradamus. C'est alors à cette période de sa vie un homme traumatisé par la mort de sa femme et de ses enfants. Il y a aussi les ravages de la peste dont il n'arrive pas à percer les origines. Nostradamus sent croître les convulsions de son temps, perçoit l'exacerbation croissante de la violence et de l'intolérance religieuse. Derrière le masque de l'astrologue et du prophète, se dessine déjà un humaniste autodidacte. Mais dans la ville de Salon, son existence ne répondra pas exactement à ses attentes. Elle sera parsemée d'embûches, de frustrations, de haine, mais aussi de récompenses et d'estime venues de la cour de France. Afin de faire face à ses problèmes financiers, il pense d'abord à commercialiser des pommades et des onguents à usage nocturne pour combattre, par exemple, les taches au visage. Il part en Italie à la recherche des plantes, minéraux et produits naturels afin de les confectionner. Le développement commercial de ce négoce de cosmétiques tourne court à Salon. Les femmes n'en veulent pas. Il se met à haïr ses concitoyens. Je suis logé entre des gens barbares, ennemis des gens de bien, entre bêtes brutes, ennemis mortels de bonnes lettres et d'érudition, écrit-il. La ville n'a aucune lettre de noblesse, aucun vestige romain. Il compare ce désert avec sa chère cité natale de Saint-Rémy. À Salon, notre homme ne trouve vraiment pas la sérénité. De plus, il doit faire face à une certaine suspicion. Son activité, pourtant, est de plus en plus foisonnante. Pour fuir le présent, il se tourne vers l'avenir de l'humanité. Tout être humain, comprend-il, s'inquiète de son futur. Et il a raison. Cela explique encore aujourd'hui le succès des marabouts, devins, médiums, créateurs d'horoscopes, diseuses de bonne aventure. De plus, Nostradamus, pourtant l'homme du XVIe siècle, a gardé la certitude du Moyen-Âge qui concevait le temps non comme une ligne plane, mais comme un mouvement cyclique. Ce qui a eu lieu se renouvellera un jour. On en revient toujours à cet éternel retour. Une catastrophe, une guerre se produira toujours dans un autre temps, dans un autre monde. À partir de 1549, il a donc maintenant 46 ans, Nostradamus se lance dans la publication de manuels pratiques de régime, d'études des saignées, fièvres, pleurésies, rhumes, avec des remèdes adaptés. Mais il va surtout diffuser ses almanachs annuels de pronostication. Et ils vont rencontrer un vif succès. Bien sûr, il s'entoure de mystères, il fascine, on le trouve étrange, voire suspect. Il se défend de s'adonner à la magie qui est condamnée par l'écriture sainte. Il répond qu'il ne pratique que la prédiction par les astres. Prudent, il détruit même certains volumes de sa bibliothèque qui abordent la philosophie occulte. Mais son ouvrage qui va le rendre célèbre presque pour l'éternité des hommes sera ses prophéties qu'il va rédiger à Salon et publier à la moitié du XVIe siècle. Elles font toujours polémique. Mais elles inquiètent ou fascinent toujours autant. Ces prophéties sont rédigées en quatrain, forme poétique tant appréciée à la Renaissance. Nostradamus y ausculte l'avenir. Comment les interprétait-on à l'époque? Leur structure grammaticale manque de clarté. On a parfois peine à les comprendre. Et voici un exemple, parmi tant d'autres. Centurie 6, 497. 5 et 40 degrés ciel brûlera. Feu approché de la grande cité neuve. Instant grand flamme éparse sautera. Bien, ne dirait-on pas un codage secret? C'en est certainement un. Encore un secret de plus. On va voir que ce codage a été voulu par Nostradamus. Il suffit de lire la préface qu'il consacre à cet ouvrage majeur. Étant donné qu'il ne m'est pas possible de te laisser par écrit ce qui serait détruit par l'injustice de l'époque, la parole de la prédiction cachée dont tu hériteras sera enfermée dans mon cœur. Raison pour laquelle j'ai retiré mon langage par des phrases cachées et énigmatiques au sujet des causes à venir, même les plus proches, le tout ayant été écrit sous une forme nébuleuse. Voilà qui est écrit et signé de sa plume, ce 1er mars 1555. On l'a entendu. Des phrases cachées et énigmatiques, sous une forme nébuleuse. A-t-il craint la justice? L'inquisition? Son excommunication par l'Église? A-t-il été obligé de se retrancher dans l'hermétisme pour ne pas être inquiété? Il se méfie des habitants de sa ville. Et il a raison. Pour l'Église catholique, Dieu a refusé aux mortels la possibilité et l'autorisation de prévoir le futur. Quand Michel de l'Hôpital deviendra chancelier de Catherine de Médicis, il dénoncera et accusera les pronostications de Nostradamus qui ne sont que menaces pour l'ordre public, car elles prédisent de sombres perspectives pour l'avenir du royaume de France. Pire, quelques années plus tard, 500 paysans salonnais vont mener une chasse violente contre les huguenots de la ville. Le soupçonnant d'être converti à la réforme, ils vont brûler Nostradamus en effigie devant sa propre demeure. Le malheureux a eu heureusement la présence d'esprit de fuir et de se cacher dans sa chère ville d'Avignon, d'y louer pour 2 mois une maison discrète, dans un quartier malfamé. Ce qui est indiscutable, c'est l'intention des prophéties, annoncer aux hommes l'avenir de leur monde. L'auteur, effrayé par l'époque où il vit, a-t-il été à ce point pessimiste pour prédire tant de malheurs? Et comment les lire aujourd'hui? Dans le monde entier, des chercheurs, fantaisistes ou sérieux, tentent encore de décoder ces messages. Rationnellement toutefois, on pourrait leur objecter que chacun peut faire dire ce qu'il veut à ses textes, que chacun peut les décrypter à sa guise. 2 exemples parmi tant d'autres. Comment être sûr que Nostradamus prédit l'issue de la bataille de Waterloo par ces quelques vers? Prêt à combattre fera défection. Chef adversaire obtiendra la victoire. L'arrière-garde fera défection. Les défaillants morts en blanc territoire. Comment croire que le chef adversaire est Wellington ? Comment admettre que les défaillants du blanc territoire sont les rescapés de la retraite de Russie de 1812 ? Peut-on admettre que cet autre quatrain annonce la naissance d'Hitler, ses discours enragés et sa politique ? Du plus profond de l'Occident d'Europe, de pauvres gens un jeune enfant naîtra, qui par sa langue séduira grandes troupes. Son bruit au règne d'Orient plus croîtra. Libre à nous de l'admettre, de le nier ou de le croire. De tout temps, on a décodé de mille façons ces écrits énigmatiques. On y a décelé l'annonce des attentats du 11 septembre, la venue de l'Antéchrist, l'incendie de Londres en 1666, l'arrivée au pouvoir d'Hitler, la fuite à Varennes, la carrière fulgurante de Napoléon. Comment naissaient ces visions ? Eh bien, peu de documents nous renseignent. Aussi, pouvons-nous l'imaginer se réfugiant dans un lieu retiré de sa demeure à Salon pour voir l'avenir. Il remplissait un bol d'eau qu'il noircissait avec de l'encre, prenait une bonne dose de noix de muscade censée hallucinogène, se couvrait la tête d'un tissu et scrutait dans le noir liquide des visions souvent d'apocalypse. Pour l'auditeur du XXIe siècle, cela peut paraître ésotérique, déraisonnable, voire grotesque. À l'époque, il n'en est rien. Tout le monde y croit, à commencer par la classe dirigeante qui s'interroge devant son avenir, peut-être parce qu'elle doit faire face aux convulsions politiques, sanguinaires et religieuses du temps. Les prophéties sont une discipline très populaire à l'époque et les almanachs et autres ouvrages de Nostradamus ont un énorme succès. Les gens du peuple veulent se rassurer et connaître aussi leur avenir immédiat. Mais l'engouement vient d'en haut. Henri II et surtout Catherine de Médicis sont entichés de ces devins, Nostradamus compris. La reine, fervente d'astrologie, d'horoscope, de pronostication, le fait d'abord venir à Paris pour consultation. Et lors du fameux Tour de France avec son fils Charles IX et toute la cour, c'est la tête de l'État qui fait le détour par Salon afin de rencontrer l'illustre mage. Ce sera peut-être le seul moment où notre héros se sentira enfin valorisé et apte à intervenir au plus haut du pouvoir. Enfin, doit se dire Nostradamus en lui-même. Jugez plus tôt. Le mardi 17 octobre 1564, la cour de France, avec à sa tête Catherine de Médicis, son fils le roi Charles IX et celui qu'on nomme le prince de Navarre, à savoir le futur Henri IV, entre dans la cité de Salon. Un seul but. Revoir et consulter Nostradamus, le saluer avec respect. Volontairement, Catherine a imposé ce détour. Détour intéressé, faut-il le dire. Il s'agit de l'épisode le plus fameux du célèbre Tour de France royal qu'elle a elle-même décidé. On ne s'imagine pas la grandiosité de cette pérégrination. Un périple de 27 mois, près de 5000 de nos kilomètres, 196 étapes, 15 000 chevaux, l'essentiel de la cour avec ministres et domestiques. Tout cela parce que, en cette période confuse, la reine-mère juge qu'il est grand temps d'imposer la présence du jeune Charles IX à l'ensemble des Français, de manifester à tous la permanence de la royauté. Une démonstration de force politique. Une caravane interminable. Une véritable métropole nomade. Voici donc les souverains qui pénètrent par la porte de la ville de Salon-de-Croix. Le roi cheval caracol en tête, vêtu de violet et d'argent. Il n'a que 15 ans. Sa mère se précipite pour saluer son mage préféré. Elle ne veut en aucune façon manquer de le faire en premier et avec dévotion. Mais le grand homme a perdu de sa superbe. Il a 61 ans. Il est déclinant, souffre de crises de goutte, de douleurs articulaires aux mains qui l'empêchent de rédiger. Son bonnet à la main afin de saluer les souverains, il s'appuie sur une canne de jonc à pommeau d'argent. Il fait l'honneur de sa demeure à la famille royale. Dans la maison du mage, Catherine paraît subjuguée. Elle est enfin dans l'antre du prophète. soumise aux divinations que va lui apporter sûrement Nostradamus. Long tête-à-tête. Elle touche enfin la vérité. Qu'est-ce qui ronge le cœur de la reine-mère? Elle lui donne 200 écus, de main à la main, pour qu'il lui fasse son horoscope et celui de son fils. Selon son habitude, l'auteur des prophéties ne dit rien qui puisse la contrarier. Il flatte le roi. Prédit qu'après lui régneront le futur Henri III et son frère cadet. Il dévoile l'avenir de la France à Catherine. La paix générale sera pour dans 2 ans. Elle y croit. En réalité, 2 de ses prédictions ne se réaliseront jamais. Il flatte la reine et elle y croit. En fonction des astres, la conjoncture est donc favorable? Eh bien oui, oui, affirme le vieil homme, bien sûr. Illusion. Et à propos de ce petit Henri de Navarre, demanda-t-elle, montera-t-il sur le trône? Cette chose impensable la torture. Et pourtant, Nostradamus répond par l'affirmative. Elle se rebiffe. Pour une fois ce jour-là, il a vu juste. Il veut d'ailleurs examiner le jeune prince, afin d'affiner sa pronostication. Il le verra le lendemain, quand son gouverneur va l'éveiller. Le prince étant nu à son lever, raconte un chroniqueur de l'époque, dans le temps qu'on lui donnait sa chemise, Nostradamus fut introduit dans sa chambre et, l'ayant contemplé assez longtemps, il dit au gouverneur qu'il aurait tout l'héritage. L'héritage du pouvoir, bien entendu. Il entreprend d'examiner le corps dénudé du petit Henri. Celui-ci se met à hurler, pris d'une peur panique, et veut s'enfuir, croyant qu'on veut le fouetter. Le fait sera conté maintes fois par le garçon devenu roi de France. On peut donc y croire. Ce qui par contre paraît impensable, c'est le signe sur lequel le mage fonde sa certitude. Quand il l'examinera la nuit suivante, il scrutera la configuration de ses grains de beauté afin de voir si elle s'accorde parfaitement à celle des astres. Telles sont les croyances de ce temps. Ce qui n'empêchera pas Charles IX, par lettre patente, de nommer sur le champ Nostradamus conseiller médecin ordinaire du roi. Et cette fois, on peut le dire, il mourra médecin. Car une fois la cour repartie, Nostradamus sent de plus en plus venir l'épuisement d'une vie contrastée et inquiète. 2 ans plus tard, à 62 ans, il juge qu'il est temps pour lui de se préparer au départ irrémédiable. Lui qui a tant exploré le futur, le temps semble soudain lui manquer. Il s'éteindra quelque temps plus tard en cette année 1566, victime d'un œdème généralisé. Ultime question. Qui fut vraiment Nostradamus? Un apothicaire devenu prophète? En tout cas, un médecin sans diplôme. Un humaniste autodidacte ou un homme lucide du XVIe siècle? Il fut, ne l'oublions pas, le contemporain d'Érasme, de Luther, de Rabelais, de Copernic et de Ronsard. On a dit qu'il descendait d'une lignée mystique de devins juifs. S'adonnait-il à l'astrologie et à l'astronomie combinées pour prédire l'avenir? Après tout, l'astronome polonais Copernic avait déjà publié son ouvrage sur la révolution des astres 12 ans avant la sortie des prophéties. Alors Nostradamus, visionnaire ou imposteur selon vous? Certains ont vu en lui un prophète du malheur, un solitaire aigri. D'autres ont conclu que ces quatrains n'étaient que poésie pure. Et si simplement, cet homme, certain que le temps est cyclique, nous avait averti que l'homme était condamné à répéter les mêmes erreurs, à revivre les mêmes horreurs. Les famines, les épidémies, les incendies, les guerres, la montée au pouvoir des dictateurs sont toujours à la une de notre actualité, même en ce moment. De nombreuses éditions de ces divinations ne vont cesser de paraître au fil des siècles. Après une baisse d'estime au siècle des Lumières, le 19e siècle, amateur d'histoire, et les années 1970, avide d'ésotérisme, vont trouver dans son œuvre de nouvelles raisons de s'interroger. Hitler en personne en fut un lecteur attentif au cours de ses années de quête du pouvoir. Selon lui, certains quatrains lui promettaient la victoire et la gloire d'un Reich pour 1000 ans, jusqu'au jour où, en 1940, il lut une nouvelle traduction qui suggérait la défaite de l'Allemagne, la fin misérable de son Führer. Mais ce qui mit le dictateur en rage, ce fut la prédiction de la venue d'un vieillard moqué de tous, en qui Hitler voyait le maréchal Pétain. Ce qui le fut hurler, ce fut surtout l'annonce de l'apothéose d'un général revenu en triomphateur. Hitler n'en doutait pas. Nostradamus avait prévu la victoire de De Gaulle. Sur le champ, Hitler donna l'ordre de saisir cette édition de l'œuvre de Nostradamus. Elle fut retirée de toutes les librairies de France par la Gestapo. Qui fut-il vraiment dans ce XVIe siècle qu'on ne nommait pas encore Renaissance ? Un siècle porteur d'humanisme, inventeur de curiosités, d'art foisonnant et de poésie nouvelle. Siècle architecte de centaines de châteaux et merveilles en royaume de France. Mais ce siècle de déchirures profondes, de guerres, de croyances polémiques, de pandémies, de massacres et de conflits religieux. S'il a prophétisé horreur, guerre et catastrophe jusqu'à prévoir la date exacte de la fin du monde, jamais il n'a tenté de connaître l'heure de son trépas. Hésitation compréhensible, vous en conviendrez, ce qui nous le rend plus proche de notre propre humanité. En fin de compte, ne serait-il pas plus simple d'admettre que cet homme mystérieux, curieux, singulier, bien de son époque a été et restera, comme un cold case, une énigme non élucidée. Et peut-être qu'après tout, il l'a voulu ainsi. Voici donc pour ce récit de cette vie extraordinaire que j'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui grâce à la plume de Michel Carli.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.